Et je vous invite à trouver dans vos Bibles ce qui est parfois appelé le cinquième évangile. Vous savez, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais parfois le livre d'Ésaïe est appelé le cinquième évangile parce que parmi tous les livres de l'Ancien Testament, nous voyons éclore la grâce, la bonté, du Messie, ce serviteur de Dieu qui vient sur terre pour mourir pour nous avec une richesse et une beauté qui ne se voit nulle ailleurs, même dans les autres livres de l'Ancien Testament. C'est un livre immense, mais je vous invite de trouver le chapitre 6 où nous trouvons l'appel d'Ésaïe à son ministère. Vraiment, ce chapitre peut être très simplement divisé en deux parties. Peut-être dans vos Bibles, vous avez même cette séparation de paragraphes. Nous avons le prophète purifié. C'est dans les 7 premiers versets. C'est ce que nous allons considérer ce matin. Et puis, nous allons quand même lire la deuxième partie où c'est le prophète mandaté, commissionné pour servir à l'Éternel. Les deux choses vont ensemble. Il est d'abord purifié avant d'être envoyé. Écoutons donc la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 6. Le prophète écrit: L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, ce sont des anges, hein, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils, ces anges, ces séraphins, criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées et leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Quelle aurait été votre réaction? Le prophète nous donne la sienne. Il dit, verset 5, Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Quelle aurait été votre réaction de voir un ange voler vers vous? Mais lui, cet ange tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Quelle grâce! Et puis maintenant, il est envoyé. J'entendis, verset 8, la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: Va. Et dit à ce peuple: Vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et je dis: Jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, Ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, et merci Seigneur pour ce mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Termine encore avec la grâce du Seigneur pour ce peuple et sa renaissance. Comme je viens de dire avant de lire, le chapitre contient donc l'appel de celui qui donne son nom à ce livre, l'appel d'Ésaïe. Et nous voyons d'abord la purification d'Ésaïe et puis le mandat donné à Ésaïe. L'année, il dit ici, de la mort du roi Ozias. Sa mort a eu lieu, on nous dit, en l'année 740 ou 739 avant Jésus-Christ. Et nous savons en fait que Ésaïe avait déjà un ministère pendant la vie de ce roi. Donc nous savons que ce n'est pas ici son premier appel. Il a déjà prêché. En fait, quand vous ouvrez le livre d'Ésaïe, vous avez tout de suite la prédication d'Ésaïe au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, et puis cet appel ici au chapitre 6. Donc, on peut penser que ce n'est pas ici son premier appel, mais c'est une confirmation de son appel pour être prophète de Dieu. Comme cela s'est produit lorsque Dieu a répété, par exemple, la bénédiction à Abraham, il lui donne sa bénédiction, il lui donne une promesse, mais plusieurs fois pendant la vie d'Abraham, Dieu va le répéter et lui redonner. Là, encore, il appelle de nouveau, il va confirmer l'appel d'Ésaïe pour être son prophète. Mais c'est un chapitre très, très important. C'est un des chapitres les plus connus de ce livre. Vous avez peut-être déjà entendu « Saint et l'Éternel des armées » qui vient de ce chapitre. Et pourquoi c'est important à raconter ça à toute la nation? Parce qu'après tout, c'est une expérience personnelle, individuelle, on va dire presque privée, qu'a eu le prophète avec Dieu. Je crois qu'une raison, peut-être la raison la plus importante, c'est que cet exemple, ce récit, cette expérience, ce que vit Ésaïe ici, ça sert d'exemple pour toute la nation. Et je veux vous montrer comment cela peut servir d'exemple, juste en lisant ces deux passages qui sont notés ici. Est-ce que vous pouvez reculer pour trouver les premiers versets d'Ésaïe? Alors, si vous êtes au chapitre 6, reculez jusqu'au chapitre 1 et regardez les tout premiers versets. Et notez, s'il vous plaît, la condition de ce peuple. Quelle est la condition de ce peuple lorsque Ésaïe commence à prêcher? Prophète d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais voici maintenant leur condition. Ils se sont révoltés contre moi. Ça doit être parmi la pire des peines d'être parent qui a élevé un enfant et qui, après, cet enfant se révolte contre ses parents. Et puis Dieu donne un exemple. Il dit, le bœuf, il connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Hein, l'âne est considéré parmi les plus bêtes des bêtes. Mais Israël est encore plus bête. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. C'est grave, non? On ne peut pas trouver pire que ça. Et pourtant, cette nation était destinée à devenir des témoins de Dieu pour tout le monde. Et je vous invite à trouver le chapitre 12. Donc, on a reculé de 6 chapitres, avancé maintenant de 6 chapitres par rapport à notre texte. Et avant de lire, je vais vous lire une autre prophétie que vous connaissez presque tous, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties dans ce livre qui ne sont pas encore accomplies et qui démontrent que ce peuple va venir à Jésus-Christ. Par exemple, Ésaïe 53, nous l'avons dédaigné. Ça, c'est la nation qui parle ici. Et confesse, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, ils reconnaissent maintenant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et regardez donc Ésaïe 12. Il parle de la nation et il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais, pour y ajouter, hein, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu, c'est ce que dira la nation, hein, Dieu est ma délivrance, je serai plein, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait de choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voyez qu'ils vont louer l'Éternel, ils vont publier ses œuvres parmi les peuples pour ceux qu'il a fait, pour que ça soit connu par toute la terre, il dit. Et donc la question se pose, comment ces gens si rebelles, si impurs, si méchants, qui sont décrits là au chapitre 1, peut-il jamais remplir cette mission de témoigner pour Dieu, de proclamer sa gloire aux nations? Et la réponse sera entre autres, voici un exemple de ce que Dieu peut faire. C'est un homme, et si vous pouvez revenir à notre texte au chapitre 6, c'est un homme comme vous, dit essentiellement l'Éternel à ce pays. Il criera que lui aussi est impur. Vous voyez ça au verset 5? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Moi, qu'est-ce qu'il dit ici? Moi je suis comme les autres. Je ne suis pas mieux que les autres de ma génération. Ils sont impurs et moi aussi je suis impur. Et Ésaïe se sert d'un mot qu'il utilise plus tard, là, quand il dit impur, en parlant de lui-même, je suis impur, il se sert d'un mot qu'il utilise plus tard dans son livre, au chapitre 64, quand il dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, c'est-à-dire la meilleure partie de nous, cette partie qu'on aime démontrer aux autres, tout ça est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est comme l'apôtre Paul où il dit, vous savez, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Et puis juste après, il dit, nous tous aussi, s'inclut dans leur nombre, nous tous aussi. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions tous par nature des enfants de colère comme les autres. Et Dieu va prendre cet homme et il va le purifier et il va le mettre à l'œuvre, et Ésaïe va servir d'exemple à cette nation comme il peut servir à exemple à nous aujourd'hui de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme impur. Et c'est comme Paul dit dans le Nouveau Testament, parlant de lui-même en 1 Timothée 1,15, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus le Messie, Jésus le Christ, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Il dit dans « Je suis le premier ». Et la Bible, en fait, nous donne les détails de son péché, le fait qu'il était persécuteur même de l'Église de Jésus-Christ. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité et pour que je serve, en fait, d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Si Dieu peut sauver un persécuteur, Dieu peut sauver Saul qui fait tout contre Christ, il peut aussi nous sauver. Il sert d'exemple. Et je pense que la purification d'Ésaïe, dans ses premiers 7 versets, sert d'exemple. Nous pouvons apprendre ce que Dieu peut faire de nous une fois que nous acceptons sa provision pour nous. Donc il est un exemple, un modèle. Et nous allons voir sa connaissance de Dieu, sa confession à Dieu, et puis sa purification par Dieu. Donc d'abord, sa connaissance de Dieu. Voyez là encore, sa confession vient dans quel verset? Pas dans le verset 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais au verset 6 et 7. Ça, c'est important. Ce qui se passe ici au verset 6 et 7, et vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus, ne se produit en fait jamais en dehors de ce qui est décrit dans les versets précédents. Hein, ce que j'essaie de dire, c'est cette expérience qui précède dans les premiers versets, qui amène, qui conduit le prophète à sa confession au verset 6 et 7. Qu'est-ce qui le pousse à la confession? Eh bien, c'est l'expérience de connaître nul autre que Yahvé, l'Éternel. Notez donc ce qu'il connaît de Dieu, ce qu'il apprend de Dieu, ce qu'il va expérimenter de Dieu ici. Je reprends verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée, alors je dis. » Vous voyez, c'est ça qui suscite sa confession. Il faut bien comprendre l'ordre. Il va connaître quelque chose de Dieu avant de confesser quelque chose à Dieu. Vous savez que personne ne voit le besoin d'une purification profonde de la part de Dieu en se comparant aux autres. Et pourtant, c'est ce que nous préférons faire, n'est-ce pas? Dès qu'on est critiqué, dès que même notre conscience nous attaque, on est toujours prêt à dire « mais je ne suis pas comme lui » ou « je ne suis pas comme elle ». Et ce sentiment va jamais nous apporter à une conviction que nous avons besoin de purification parce que nous sommes tous mieux que quelqu'un d'autre. Je m'appelle quelqu'un ici qui avouait qu'il mentait très souvent, mais il a dit « Mais moi, quand je suis dans une église, je ne mens jamais. » Voilà. Il était fier de cela. Et on a besoin de se sentir bien. Mais vous savez, vous ne pouvez même pas y arriver à cette conviction que vous avez besoin d'être purifié en essayant de plonger le regard dans la nature de votre propre cœur, se disant, comment est-ce que je suis? Et en essayant d'analyser vous-même. Et la raison pour cela est que le cœur est trompeur. La Bible dit, c'est par-dessus toute autre chose. Le cœur est malade. Et donc, votre cœur ne vous laissera pas entrer dans le secret de votre dépravation. C'est la dernière chose que la chair peut abandonner, c'est ce regard qu'elle a sur elle-même. Alors, qu'est-ce qui va nous pousser vraiment à chercher la purification dont nous avons besoin? C'est de connaître qui? Pas les autres, même pas nous-mêmes, mais de vraiment connaître Dieu. Et nous voyons ici ce qu'il voit de Dieu. Pour Ésaïe, dans ce texte, cela se produit visuellement. Et peut-être ça crée une difficulté pour nous, car nous savons que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Comme Jésus dit à la femme samaritaine, en Jean 4. Donc il n'y a aucune présence corporelle à Dieu le Père, il n'y a rien de corporel au Saint-Esprit, et même la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, il n'avait aucune chair jusqu'à ce qu'il soit devenu homme lors de l'incarnation en tant que fils de Marie, pas encore à cette époque. Donc bien que personne n'ait jamais vu Dieu, comme dit Jean 1:18, Dieu a parfois, quelqu'un l'a dit comme ça, il revête son invisibilité d'une forme qui peut être vue par l'œil humain. Et il ne s'agit pas en fait d'une révélation de sa nature dans sa totalité. Aucun homme ne peut voir Dieu de cette manière. Mais il y a une révélation partielle et de forme visible comme nous voyons ici. Nous voyons en fait la même chose en Apocalypse quand nous voyons, c'est décrit même, que l'agneau va aller jusqu'au trône et prendre les rouleaux de la main de celui qui est assis sur le trône. Et l'agneau c'est Christ, celui assis sur le trône c'est le Père. Et Jésus nous a dit dans les Béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils quoi ? Ils verront Dieu. On parle de ça comme la vision béatifique de pouvoir voir Dieu. Et ce qu'Ésaïe voit ici, c'est le Seigneur sur son trône. Le Seigneur tel qu'il est décrit en Daniel 7 ou dans l'Apocalypse 4 et 5. Il voit quelque chose ici, Jean 12 va même dire de la gloire de Jésus-Christ lui-même. Et si, donc, vous voulez concevoir quelque chose de la gloire resplendissante de Dieu, ben vous devez le concevoir comme resplendissant sur un trône majestueux. C'est comme ça qu'on doit le voir. Il est sur un trône majestueux et la majesté souveraine est là tout autour de lui. Il est intronisé, comme on dit. Hein? Il est, là, regardez le premier verset, il est assis sur un trône très élevé. Il est exalté. Et la Bible nous pousse partout à avoir une vision très exaltée de Dieu. Le grand problème, c'est que notre Dieu est trop petit à nos yeux. Mais il ne peut jamais être trop grand à nos yeux. Et remarquez la description à la fin du verset 1 et comment elle souligne l'exaltation de ce Dieu intronisé. Ce qui est décrit, vous voyez, ce n'est pas le trône. Ce n'est pas la personne assise sur le trône. C'est même pas la robe dont il est dit que Dieu est paré ici, mais c'est simplement quoi? Les pans de sa robe. Le second 21 dit le bord inférieure de son vêtement. C'est la partie tombante d'un vêtement qui s'étend derrière la robe. Ici, trouvez de 100 mètres sur Internet. Mais vous savez, même pour une mariée, même s'il y a la robe qui traîne de 100 mètres, normalement, on ne garde pas les yeux collés sur les pans de la robe. Vous avez été dans une cérémonie de mariage, la mariée est en train d'entrer, vous n'allez pas tout le monde en train de regarder les pans de sa robe. Naturellement, on veut regarder plus haut, voir qui elle est. Regardez son visage. Mais la description ici s'arrête au pan. S'arrête ici au bord inférieur de son vêtement. Et on nous dit que les pans de sa robe remplissent le temple. Que ça ! Le temple de Salomon comprenait des milliers de kilos d'or et d'argent. Ça a dû être très impressionné simplement de voir le temple et d'entrer dans le temple. Mais le temple, dans toute sa grandeur, ne peut servir qu'à recevoir le bord inférieur du vêtement de celui qui est assis sur le trône. Vous voyez la comparaison qui est faite. Nous, on construit ce grand temple pour l'Éternel et lui, il va mettre les pans de sa robe. Et ça va le remplir. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Ce qui est communiqué, et c'est pas très compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'endroit terrestre, aussi élaboré soit-il, qui puisse se comparer à la grandeur de Dieu et encore moins le contenir. On ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de trouver un endroit où il puisse mettre les pans de sa robe. Et la description de la grandeur de Dieu s'arrête donc ici à sa partie la plus basse de sa robe. À la fin de ce livre, Ésaïe dira, Ésaïe 66, « Ainsi parle l'Éternel, donc c'est Dieu qui parle, « Le ciel, en fait, est mon trône, et toute la terre n'est que mon marchepied. » Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Vous voyez, pour beaucoup d'eux, la gloire de Dieu était là, localisée totalement sur ce temple. Et Dieu dit, non, la gloire de Dieu est tellement vaste, tellement grand que ce temple ne peut contenir qu'un tout petit bout de sa gloire. Salomon était conscient de cette lacune, lui qui a dédié le temple à la gloire de Dieu, et il dit dans sa prière dédicace, il dit « Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Donc vous voyez, il voit quelque chose de la grandeur de Dieu, même avec ses yeux. Même limité, parce qu'il ne voit que les pans de la robe. C'est comme quand Dieu apparaît à Moïse et Dieu le cache et il voit que son derrière. Juste une partie de la gloire de Dieu. Et c'est assez pour le terrasser. Mais il entend aussi quelque chose sur Dieu. Voyez ça au verset 2 et 3. Il entend de ses oreilles maintenant quelque chose de la grandeur de Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Dans deux, ils se couvraient la face. Dans deux, ils se couvraient les pieds. Dans deux, ils se servaient pour voler. Quelqu'un dit, ils se servent de quatre ailes pour adorer, de deux pour servir. Et ils crient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, Ésaïe entend les créatures célestes vanter la gloire de Dieu. Le mot séraphin, c'est un mot qui signifie en hébreu « brûlant ». On pourrait le traduire « les brûlants ». Ça devient une description de ces êtres. Avez-vous déjà senti peut-être une chaleur, vous sentez que ou vous êtes tellement embarrassé, vous sentez que votre visage est en train de rougir. Mais imaginez un être constitué de flammes. Et bien, vous savez, les anges ne sont pas comme nous, les anges ne sont pas une race. Ils sont chacun une création individuelle de Dieu. Et donc, il y a certainement une diversité parmi eux. Et lorsque nous voyons la diversité de la création de Dieu sur la terre, regardez les animaux, petits, grands, qu'il existe. Pourquoi penserons-nous que le ciel est peuplé d'une plus grande uniformité? Dieu est un Dieu créatif. Et ces êtres angéliques, la Bible dit, parfois ils ont un visage, parfois ils ont deux visages, parfois ils ont quatre ailes, parfois six ailes, parfois quatre visages, parfois avec une roue dans une autre roue qui est couverte Dieu. Enfin, il y a une créativité extrême entre ces créatures que Dieu lui-même a créées. Mais bien qu'ils soient impressionnants en eux-mêmes, et je vous assure, ils sont. Quand vous lisez dans la Bible que quelqu'un voit un ange, hein, quand il ne cache pas sa gloire pour apparaître comme un simple homme, les gens réagissent toujours avec terreur. Parfois, ils veulent même l'adorer. Donc, on les entend souvent dire « N'aie pas peur et ne m'adorez pas ». Ce sont des créatures donc impressionnantes. Mais ils sont eux-mêmes humiliés devant la grandeur de Dieu. Ils se cachent les yeux pour ne pas voir, ils se cachent les pieds pour ne pas être vus. Ils se sont humbles et humiliés devant sa présence. Verset 2, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Les verbes pour couvrir et voler sont continus. Donc c'est une scène qui est d'une activité constante ici. Et puis on a ce qu'il ressent aussi dans la présence de Dieu. Ça c'est au verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et ils sont un tremblement de terre, un tremblement du temple en tout cas. Ces portes immenses qui tremblent sur leurs gonds à cause de la voix. Et nous savons que la voix produit des ondes. Mais imagine des ondes qu'il faut pour faire trembler de grosses portes. Et il ressent tout ça dans son être. Et le temple, il dit ici, se remplit de la fumée produite par ces séraphins qui proclament la grandeur de Dieu, ces êtres enflammés, ces remplis. C'est presque indescriptible, même si nous avons une description ici. Mais c'est inimaginable de se mettre correctement dans la peau d'Ésaïe, de ce qu'il a vécu. Mais quel est l'attribut central de Dieu qui est souligné dans cette expérience qu'il a? Si on vous demandait quel est l'attribut central de Dieu, l'attribut primordial de Dieu, vous devez répondre, comme disent presque tous les théologiens, que ce qui est au centre de cette scène est vraiment au centre de la personne de Dieu. Et c'est la sainteté de Dieu. Ce qu'Ésaïe entend, c'est qu'ils exaltent l'attribut central de la divinité. Vous voyez, ils disent « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel des armées. Toute la gloire est pleine, toute la terre, pardon, est pleine de sa gloire. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la sainteté de Dieu est vraiment cette caractéristique centrale? Eh bien, une raison, c'est qu'il y a une répétition ici, sans parallèle du mot saint. On trouve parfois la répétition deux fois. Par exemple, quand vous lisez dans la Bible où ça dit l'or, l'or, c'est traduit l'or pur. Où Jésus dit, enfin, en Ésaïe, il dit même à certains, je lui assure la paix, parce qu'il se confie en moi. C'est traduit dans certaines traductions, la paix parfaite. Nous savons aussi que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Hein, c'est la façon dont la Bible va souligner, mettre en gras des vérités, mais voici la seule fois dans la Bible où il y a cette répétition trois fois. Dieu est saint, saint, saint. Mais cette description aussi est utilisée pour décrire Dieu plus que tous les autres termes descriptifs réunis. C'est-à-dire dans la Bible, si vous voulez juste compter, hein, la Bible va nous parler de la sainteté de Dieu plus que toutes les autres caractéristiques de Dieu réunies. Elle nous ramène fois après fois après fois après fois à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Mais c'est surtout l'attribut qui qualifie tous les autres attributs de Dieu. C'est pour ça qu'il vient en premier, parce qu'il décrit en fait tous les autres. Donc on peut dire que Dieu est saint dans son amour. Sa puissance est une puissance sainte. Sa majesté est une sainte majesté. Vous voyez, il est saint dans tous ses attributs. Il a une sainte miséricorde. C'est pour ça, même l'évangile, même la bonne nouvelle, même quand Dieu montre la grâce aux pécheurs, il ne peut que le faire d'une manière sainte. On ne peut pas dire juste, ah, t'es pardonné. Non, parce qu'il est saint. Donc même dans son amour, il doit rester saint. Et c'est pour ça que Jésus a dû venir et mourir à notre place, pour que Dieu puisse rester juste tout en justifiant celui qui est pécheur, parce que la justice est essentielle à sa sainteté. Donc, qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Alors, réfléchissez un peu. C'est, d'une certaine manière, sa perfection morale et l'absence du péché. Ça, c'est vrai. Mais dans la Bible, la sainteté de Dieu nous fait penser à plus que ça. Parce que la Bible va appeler même des objets saints parfois. On peut avoir des outils qui sont saints. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas péché. C'est parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Ils sont consacrés au service. Donc il y a des vêtements même, des prêtres qui étaient des vêtements saints. Ils étaient consacrés au service de Dieu lui-même. Donc quand une chose était mise à part pour l'usage de Dieu, elle devenait sainte. Et ça peut s'agir d'un pot qui n'est pas moralement pur, mais il est distinct. C'est donc un pot saint pour le Seigneur. On ne va pas plus l'utiliser d'une manière profane. Et la sainteté donc, de Dieu parle du fait qu'il est, unique. Il est vraiment à part. Il est distinct. Il est différent. Et à un moment, Dieu dit, mais à quoi est-ce que vous allez me comparer? Même en Ésaïe, et il rend clair qu'il ne veut pas être comparé à autre chose. Ce n'est pas correct de penser à Dieu comme étant l'ultime dans une échelle d'êtres vivants. Parfois, les gens ont cette image, on a les fourmis, on a les bêtes plus intelligents, hein, comme des chiens et des chats, et puis on saute et on a des hommes, des êtres humains, et puis on saute encore, on a des anges, et puis tout en haut de l'échelle, il y a Dieu. Mais en fait, Dieu ne veut pas être conçu comme ça, parce qu'il n'est pas sur même la même échelle. Il est complètement à part. Dieu est aussi distinct et différent d'un ange qu'il est d'une fourmi. Il n'y a pas de comparaison. Il est dans une classe à part. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est saint, il est créateur. Toutes les autres choses sont la création. Et c'est ce que les êtres angéliques se proclament ici, les uns aux autres. C'est comme s'ils s'exhortaient mutuellement à cette pensée, la sainteté de ce Dieu exalté et souverain. Il est différent, il est à part, il est seul, il est unique, il est saint, saint, saint. Et en conséquence, Ésaïe ici commence à comprendre quelque chose de la sainteté de Dieu. Avez-vous jamais vu un peu de vos yeux spirituels cette grandeur sainte de Dieu? Il dit même ici que la terre, toute la terre est pleine de sa gloire. Sa gloire remplit la terre. Ça, c'est une pensée, une vision spirituelle que vous voulez avoir de Dieu et ne jamais perdre. Élevé sur sa gloire et trois fois saint. Dans les passés, les gens aspiraient à ressentir la gloire et la majesté du Seigneur. Et nous aussi, nous devons la rechercher et ne jamais permettre à quelque chose de remplacer cette vision élevée et exaltée que nous devons avoir de Dieu. N'acceptez jamais une théologie qui diminue la grandeur de Dieu. Et n'acceptez jamais non plus, mes amis, des expériences qui peuvent être humainement produites, même au nom de Christ, mais qui contrefacent une connaissance réelle de la sainte gloire de Dieu. Et il y a un danger de nos jours de contrefaire cette expérience qu'a eue Ésaïe de la sainte majesté de Dieu. Et je crois que c'est un des grands dangers des cultes évangéliques, même qui sont rythmés et intenses sur le plan émotionnel. Il y a un danger dans cela, et le danger, c'est que les adorateurs sortent de ce temps dit de louange, d'adoration, et confondent les sentiments forts qu'ils ont eus et qu'ils ont ressentis avec une réelle connaissance expérimentale et une rencontre avec le Dieu trois fois saint. Et c'est pas la même chose. Donc ne confondez pas ce que ces émotions et même cette musique charnelle peut vous procurer avec une connaissance, une compréhension, un contact spirituel avec la sainteté de Dieu. Et on sait que c'est une musique charnelle qui existe parce que si vous enlevez les paroles, elle attire les hommes charnels et produit en eux les mêmes sentiments et les mêmes émotions. Vous pouvez regarder sur Internet un groupe de chanteurs mormons, catholiques et même musulmans, je l'ai fait, et trouver la même intensité d'émotion, les bras levés en l'air, les yeux fermés, la respiration forte, la voix douloureuse et passionnée, et puis réaliser que ce n'est pas le contact avec un Dieu trois fois saint qui a créé ces sensations, mais c'est une expérience musicale charnelle dans le sens qu'elle fait appel à nos sens, qu'à l'homme naturel. Et donc la musique, même au culte, elle fait appel à deux éléments pour rendre gloire à Dieu. Les textes et les mélodies. Et donc nous voulons des textes qui mettent l'accent sur Dieu, ses perfections, qui témoigne de ce qu'il a fait, comme on a chanté de Jésus-Christ, son incarnation, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intercession et puis son retour. On a pu tout chanter ça dans un seul chant. Et puis pour accompagner, parer ces paroles de notre Christ unique et notre Dieu trois fois saint, nous voulons aussi des mélodies qui soient choisies pour en fait distinguer nos chants de la musique profane et populaire. Nous avons un Dieu qui est saint, il est différent, il n'est pas comme les autres. Et on veut tout faire pour communiquer que notre Dieu est saint, 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 qu'il est complètement à part, séparé, distinct, autre, que tout existe dans le monde. On veut que les gens aient une impression de cela, que notre Dieu est élevé dans les cieux, assis sur son trône et majestueux dans toute sa sainteté. Et nous pouvons être certains que Satan va faire tout ce qu'il peut pour créer des expériences contrefaites, pour que vous n'ayez jamais l'expérience réelle de connaître et ressentir Dieu dans toute sa sainteté. Et ça existe depuis toujours, hein. Ça a commencé avec des vêtements assez tôt, 2e, 3e siècle, pour essayer de créer une atmosphère de grandeur. Et puis, dans chaque ville et, on peut dire, village d'Europe, il y a des cathédrales, des édifices les plus hauts de tout le village, de toute la ville. Et en entrée là, on a ce sentiment de grandeur. Mais ça ne voulait pas forcément dire qu'ils entraient en contact avec le Dieu trois fois saint. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de cathédrale parce que maintenant, on a des systèmes avec où on peut vraiment augmenter le son et on peut crier avec les oreilles ce sentiment aussi de grandeur et de majesté, mais ça devient des contrefaits, souvent. Et nous voulons rien remplacer d'une expérience réelle de connaître et ressentir Dieu dans toute sa sainteté. Moïse a prié Dieu, je veux voir ta gloire. Paul a dit, je veux gagner Christ, je veux connaître Christ, je veux expérimenter la puissance de sa résurrection et même avoir part à ses souffrances. Voyez, nos ancêtres dans la foi ont recherché cela. Nous aussi, nous devons la rechercher. C'est ça qui va gérer après nos vies, nos pensées, nos réactions, nos valeurs. Et vous savez que vous avez eu une telle connaissance personnelle de la sainteté de Dieu, car elle conduit à coup sûr à une telle confession. C'est cette vision de la sainteté glorieuse de Dieu qui se cache derrière la confession là au verset 5. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. C'est un mot pour ruiner, c'est un mot que vous utiliserez d'un désastre. Il vient devant Dieu et il est complètement ébranlé devant lui. Parce qu'il a vu pas seulement la gloire d'un ange, il a vu la gloire de Dieu. Et il se sent dans son fort intérieur complètement ruiné et perdu. Ça, c'est son témoignage. J'ai vu Dieu et je suis perdu. Il dit, notez-le, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alors pourquoi se préoccuper de ses lèvres? Et j'ai trouvé au moins deux suggestions. Une suggestion, est-ce qu'il peut que les lèvres représentent ici son être tout entier? Vous savez que Jacques, chapitre 3, il dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme quoi? C'est un homme parfait, capable de tenir tout son cœur en bride. Donc il dit, voilà, ça, si on ne pêche pas de nos lèvres, on est parfait. Donc il sait, je pêche avec les lèvres, donc je suis un homme imparfait. Mais il se peut aussi que son ministère, enfin ça c'est vrai, mais il se peut que ça soit la raison. et que son ministère consistait à utiliser sa langue et ses lèvres. Et ça, c'était ce qu'il faisait en tant que prophète. Donc ça, c'est la partie la plus de son corps la plus consacrée à Dieu. Dans de toutes les choses dont un prophète aimerait qu'on se souvienne de lui, hein, de toutes les choses pour lesquelles on aimerait qu'un prophète se souvienne de lui, ça serait de ses paroles, de ses prophéties. Ça, c'est la meilleure partie qu'il a à offrir. Mais même cette partie de son corps qui était la plus dédiée au service de Dieu, il doit maintenant l'avouer, c'est impur comme toute sa culture. C'est un homme qui a été terrassé devant la sainteté de Dieu. Et vous voyez qu'il ne parle plus des autres et des péchés des autres. Il parle de lui-même. Et après avoir dit des choses très très fortes sur sa culture, lui dit « Moi, je suis comme eux. » Il explique pourquoi il se sent ainsi à la fin du verset. Car, et dans certaines traductions, mais aussi car dans d'autres, ou et voici dans d'autres, car voici mes yeux en vue le roi, l'éternel des armées. Vous voyez, c'est exactement ce que nous avons supposé. Qu'est-ce qui le pousse à confesser? C'est qu'il a, vu Dieu tel qu'il est réellement. Il a compris quelque chose de Dieu qu'il ne voyait pas auparavant. C'est cette vue de Dieu qui le pousse à cette confession. Est-ce que vous avez déjà côtoyé un chrétien qui marchait si près de Dieu? Vous êtes en train de parler d'une certaine situation et vous avez presque même le sentiment d'être un peu mal à l'aise près de cette personne. Parce que vous savez que bon, leur façon d'agir, de réagir, de penser, d'évaluer, etc. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas ce que vous ressentez. Si vous avez ressenti ça, ça c'est juste une partie infime de ce que Ésaïe doit se sentir dans la présence de Dieu. Et il voit le Seigneur élevé, exalté, il entend les anges proclamer sa sainteté, il ressent ces grosses portes du temple trembler et toute la place se remplir de fumée. Il dit, je suis un homme ruiné et perdu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, chaque personne qui est venue à Christ pour être lavée de son péché a connu, peut-être pas exactement la même chose, mais a connu quelque chose comme cela. Un sentiment que devant Dieu, vous étiez perdu. Et si vous avez jamais ressenti cela, si vous dites, oh, moi j'aime bien prier, et Dieu, il m'aime bien, c'est probablement que vous n'avez jamais été vraiment sauvé par Christ. Parce que même les petits-enfants, même les enfants, les plus jeunes, doivent être persuadés par l'Esprit de Dieu de la nécessité de Jésus-Christ comme sauveur, d'avoir Jésus-Christ comme sauveur. Dès qu'un enfant commence à parler, nous-mêmes, on était pareil. Ils se mettent à se justifier. C'est pas ma faute, c'est pas moi, je suis mieux, je mérite. Et on voit donc, même dans un petit enfant, il faut que l'Esprit de Dieu lui révèle son propre péché. Il ne suffit pas que le parent dit « t'as péché » pour dire « non ». Il faut vraiment le travail du Saint-Esprit qui nous convainc de nos péchés. Et il ne s'agit pas ici d'une simple connaissance théorique. Si on demande aux gens « est-ce que vous êtes pécheurs ?» Oui, la plupart vont dire « oui, je suis pécheur ». Mais ça, c'est quelque chose de plus, beaucoup plus profond, hein, une véritable connaissance du cœur, que je suis perdu sans la véritable purification de Dieu. Moi, je peux rien faire. Je suis perdu. Et vous voyez, il ne fait rien. Il a ce sentiment d'être perdu, il ne demande même pas la grâce, il est tellement terrassé par ses propres péchés qu'il ne voit pas d'espoir. Et malheureusement, nous avons la tendance de vouloir toujours penser que nous sommes mieux que nous le sommes. Et donc, parfois, ça arrive dans les enfants, dans les foyers chrétiens, parfois que la façon que Dieu enseigne sa grâce à un enfant, c'est de le laisser s'égarer et puis goûter le fruit amer de sa dépravation et de son péché, jusqu'à ce qu'il ou elle soit convaincu que vraiment il n'y a rien de bon en lui. Souvent avec un rebelle, il n'y a personne de plus juste en soi. Un rebelle est convaincu que c'est la faute de tous les autres. Et Dieu doit le laisser aller jusqu'à ce qu'il goûte un peu le fruit de ses propres péchés et il réalise « Ah non, je ne suis pas bon ». C'est comme le fils prodigue, hein, vous connaissez cette histoire. Il dit, non, donne-moi mon héritage, hein, comme s'il l'a mérité. Donne-moi ma part de mon héritage. Et le père doit laisser tout gaspiller. Et il se trouve avec des pourceaux quand il réalise que vraiment, il n'est bon à rien et il a besoin de son père. Mais quelle tristesse d'aller jusqu'à là. Quelle souffrance vous causez pour les autres. Acceptez ce que Dieu dit de nos cœurs tortueux pour ne pas devoir goûter que la voie du pécheur mène toujours à la ruine. Mais si vous êtes arrivé à ce point, vous voyez la sainteté de Dieu au point de réaliser que vous ne pouvez rien faire, cela vous prépare à la purification. Donc nous avons la connaissance de Dieu, la confession de Dieu. Et puis, je termine avec sa purification par Dieu. C'est beau, hein? Dieu ne la laisse pas là. Regardez le verset 6. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » La provision divine est donnée dans ces versets. Et remarquez que le Seigneur, il prend l'initiative. Hein. Ésaïe est si défait ici, il ressent un tel désespoir qu'il ne crie même pas pour que le Seigneur fasse quelque chose pour lui. Mais Dieu, il agit quand même dans sa miséricorde. Et l'un des séraphins prend un charbon ardent ou une braise et vient jusqu'à lui. Et vous voyez que Ésaïe, le prophète, il ne contribue rien. Tout vient de Dieu. L'initiation vient de Dieu. L'autel vient de Dieu, le charbon, la braise vient de Dieu, l'ordre aux séraphins vient de Dieu, tout est fourni gracieusement par le Seigneur. Tout est grâce ici. Et nous connaissons la révélation plus complète dans la Bible qui parle de la provision complète donnée par Dieu. Donc il est question même plus loin dans ce livre, on a cité Ésaïe 53 par exemple. Où Dieu lui-même fournira le sacrifice qui recevra en lui-même toute la colère ardente de Dieu pour que Dieu puisse maintenant nous purifier, pour qu'il puisse être juste et nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Et parce que Dieu a prévu cela, parce qu'il a fourni cela en Jésus-Christ, il pouvait fournir même à ses saints dans l'Ancien Testament une purification. Et elle est appliquée, remarquez le verset 7, c'est très beau ça. Où est-ce que la purification est appliquée? Il prend cette braise de l'autel qui signifie que le sacrifice a déjà été offert. Hein? Et il n'y a pas de sacrifice à offrir. La braise est là parce que le sacrifice a déjà été offert. Tout a été fait. La braise, c'est le reste, c'est la conséquence de ce sacrifice. Et l'ange va l'appliquer à la partie même de l'être qu'Ésaïe avait décrié, ses lèvres. Et Dieu peut faire cela pour vous. Qu'est-ce que vous lamentez ce matin? Qu'est-ce que vous dites, ô Seigneur? Mes pensées. Ou ma colère. mes convoitises. Vous savez, le chardon ardent de Dieu, pris de l'autel où Jésus-Christ est mort, peut nettoyer et purifier tous ses péchés et même guérir votre conscience. Et regardez la fin du verset 7. Il dit « Ton péché est expié. Qu'est-ce qui pourrait bien s'occuper de votre iniquité ?» Lui, il est terrassé par qui ? Par Dieu. Et puis qui vient le sauver et le purifier ? C'est Dieu. Dieu nous sauve de Dieu. Parce qu'il est saint, mais il est aussi plein d'amour. Ô Dieu, nous te prions que par ton esprit, tu prennes ces paroles et que tu les fasses croître en nous pour ta gloire, mais pour notre joie. Car il n'y a rien de plus bienheureux, comme Jésus lui-même a dit, que de voir Dieu dans toute sa sainteté. Donne-nous donc à le voir, pas tel que nous l'imaginons, mais tel qu'il est réellement, et qu'en voyant, que nous soyons transformés dans la même image de Christ, de gloire en gloire, jusqu'au jour où nous serons glorifiés et semblables au Fils de Dieu lui-même. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.